Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Il est où ton papa?
Bah, il est au cimetière.
Mais il est vacant au ciel?
Au ciel? Non, il va rester là, dans le cimetière.
Morgane, mange tes carottes.
Bah, je les mange. Et toi, tu vas mourir?
Bah oui, un jour, on va tous mourir.
Et toi, tu vas mourir quand?
Bah ça, j'en sais rien.
Évidemment, quelques personnes de son entourage pouvaient le prévoir, mais sûrement pas nous. Hein. Le bougon, mais pas que, Jean-Pierre Bacri, est mort ce 18 janvier d'un cancer à l'âge de 69 ans. On écoutait là un extrait de « Au bout du compte », film d'Agnès Jaoui, dont il a coécrit le scénario, un de ses nombreux films dont il a écrit le scénario. Alors dans Cinérama aujourd'hui, on ne va pas se priver de jouer au blind test, et ce sera avec plaisir avec la filmographie de l'acteur et scénariste français pour non pas 5 extraits de films à deviner, mais 10. Il faut bien ça pour saluer sa mémoire. Bonjour Manu.
Bonjour Vincent.
Alors toi, tu vas nous parler d'un film sur Netflix, alors un film très intéressant.
Oui, je vais vous parler de Pieces of a Woman du Hongrois Kornél Mundruczó. Un film qui est très, très attendu, un film canadien en fait.
Et j'avais prévu d'ailleurs de faire un blind test sur les plans séquences, car ce film, il est fait à partir d'un plan séquence quasiment au tout début du film, assez remarquable. Mais voilà, l'actualité prime. Sinon, les autres chroniqueurs de Cinérama ne seront pas avec nous, mais c'est pas grave, ils ont quand même prévu quelque chose, et de nous parler notamment de One Night in Miami de la comédienne Regina King, un film qui est bien promis pour les Oscars, et puis de Scrooge Mystery ou le mystère Picsou, un documentaire de Morgan Jiquel. Mais on va commencer avec un film qui surgit d'un plan séquence au contenu dévastateur, c'est A Pieces of Woman.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Cinérama.
Nous reviendrons aux questions plus tard.
Le prologue est déjà cité par tous ceux qui l'ont vécu comme un exploit technique inoubliable, un plan séquence d'une quinzaine de minutes, censé prendre le spectateur par la gorge et l'introduire au cœur d'un drame humain. La caméra portée à l'épaule suit un couple, Martha et Sheen, au moment où Martha s'apprête à accoucher à domicile. Alors une sage-femme débarque pour porter assistance à la jeune femme. La Steadicam, on suppose, passe d'un personnage à l'autre, observe les regards inquiets et ne nous épargne rien. Le hors-champ et l'ellipse n'ont pas leur place, tout doit être montré quasi en temps réel. Le plan séquence est certes mémorable, même impressionnant, mais à mon avis, il n'évite pas la complaisance ni le passage en force. Le dispositif paraît étrangement artificiel et démonstratif. L'effet de réalisme est évincé au profit d'une virtuosité factice, alors beaucoup plus facile aujourd'hui à exécuter à l'ère du numérique. Évidemment, cette ouverture se termine par un drame atroce, le décès du nouveau-né, ajoutant une surcharge mélodramatique qui aurait sans doute mérité un traitement plus sobre et pudique. Mais en même temps, a posteriori, cette entrée en matière viscérale, à défaut de subtilité, est sans doute nécessaire. Elle permet surtout de rentrer dans le vif du sujet, un drame conjugal et intime sur la reconstruction possible d'une mère ayant perdu son enfant. Le réalisateur hongrois, Kornél Mundruczó, toujours associé au scénario à son épouse, Kata Weber, depuis White God, évite en partie les lourdeurs symboliques qui tiraient la lune de Jupiter vers le bas. En partie car l'appétence pour la métaphore reste toujours le péché mignon du cinéaste, à l'image de l'étrange épilogue où une simple pomme n'est plus une pomme, mais une image chargée de sens. Cependant, contre toute attente, le récit frappe par sa sobriété, la justesse aussi des rapports familiaux. Alors Martha a décidé de s'en sortir, de tirer un trait sur cette tragédie afin de revivre. Elle se trouve empêchée par sa famille. Son mari, d'abord, devient de plus en plus agressif, révélant une nature violente et compulsive. Ensuite, sa mère, échappée des camps de concentration, une survivante de l'Holocauste, capable de proférer des ignominies envers sa fille. Alors, le travail de deuil pour Martha est freiné par le poids écrasant de la morale judéo-chrétienne, par ce désir un peu malsain de vouloir se faire justice et trouver un coupable, en l'occurrence la sage-femme. Certes, la dimension sociale, soit la lutte des classes entre les origines ouvrières de Chine et celles bourgeoises, bourgeoise de Martha, alors bien défendue par sa mère, méprisant les pauvres incultes, frise parfois la caricature et gêne par sa succession de le commun. Mais cet aspect est rapidement éludé. Pieces of a Woman s'avère avant tout le portrait magnifique d'une femme libre qui aspire à dépasser le drame pour se relever, quitte à se heurter auprès de ses proches. Alors, Mundruczo, un film avec une étonnante simplicité, toutes les séquences intimes, débarrassées de son imposante virtuosité, alors marque de fabrique de beaucoup de cinéastes de l'Est, il émane du film une étrange douceur, un apaisement progressif, traduit par la beauté des images accentuant les couleurs automnales. Alors, plus le film avance, plus il devient délicat et déchirant, jusqu'à la scène de procès, tout en résilience d'une justesse inouïe. La force du film tient l'interprétation bouleversante de Vanessa Kirby, hein, qui n'a pas volé d'ailleurs son prix d'interprétation à Venise, et soit dit en passant, le film n'est pas une production Netflix, mais a été racheté par Netflix. Hein. Ce qui est important, je pense, à souligner, vu le contexte. Et puis la médiocrité quand même assez courante des productions Netflix. Hein. Mais face à elle, retenons aussi la performance de Shia LaBeouf, hein, méconnaissable en mari rustre, et surtout l'impressionnante Ellen Burstyn, qui joue le rôle de la mère, qu'on avait vu il y a très longtemps dans L'Exorciste, bien sûr, mais aussi dans Requiem for a Dream. Une mère abusive et surprotectrice, donneuse de leçons, déchirée par son passé, qui parvient néanmoins, derrière sa froideur impassible, à dégager une humanité. Et enfin, le plaisir de revoir la trop rare Molly Parker, actrice canadienne, disparue des radars depuis quelques années, révélation de deux films de la cinéaste Lynn Stopkiewicz, Suspicious River et Kissed à la fin des années 90. Elle est parfaite dans le rôle, hein, très court d'ailleurs, hein, de la sage-femme. En se débarrassant donc de son formalisme appuyé et des allégories censées faire sens à chaque plan, Mundruczo réalise sans doute son meilleur film, un mélo suffocant et éprouvant, mais en fin de compte, porteur d'espoir, formidablement bien écrit par Kata Weber. Puis il faut souligner qu'à l'origine, hein, ce drame intime leur est arrivé. C'est adapté d'une histoire vraie. Et il s'agissait au départ d'une pièce de théâtre qui a été un gros succès en Hongrie, en fait. Et je trouve que le film, finalement, est très réussi, même si c'est vrai que moi, je n'ai pas été si emballé par les premières minutes, en fait.
Ce film est disponible sur Netflix. Nous allons commencer à jouer au blind test avec la filmographie de Jean-Pierre Bacri. Comme c'est un long blind test en 10 extraits à deviner, on va le faire en deux parties. Il va y avoir d'abord 5 extraits et puis après, un peu plus loin dans l'émission, 5 autres extraits à deviner.
Cinérama.
Oh non, ça suffit, de quoi s'agit-il, d'une blague ?
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Merci.
Jean-Pierre Bacri, c'est 40 années de carrière, 4 Césars pour le meilleur scénario et un meilleur acteur, et celui du meilleur acteur dans un second rôle pour On connaît la chanson. A priori, ça va quand même être un blind test facile. On est plutôt dans l'esprit, finalement, de rendre hommage à l'acteur plutôt qu'à chercher bien le film que tu ne pourras jamais découvrir, Manu.
Oui, mais c'est pas si... risque de pas être si simple, parce qu'il a quand même... c'est un acteur formidable, mais qui a souvent joué le même type de rôle, en fait.
C'est vrai. Il y a cette petite difficulté. Mais là, je tiens à préciser que j'ai pris aussi que des extraits qui sont disponibles. Je n'ai pas fouillé, comme je le fais d'habitude, dans les films.
2 heures de retard, et pour finir, un prétexte débile, trouvé à la va-vite. Même pas foutu d'inventer quelque chose de plausible. Il n'y a que du mépris là-dedans.
Ils se sont excusés, Georges. Ça arrive d'être coincé en voiture.
Qu'est-ce que ça peut me foutre, cette excuse sur les embouteillages? Ils découvrent les embouteillages? Ça fait 40 ans qu'ils habitent ici. Ils devraient être prévenus maintenant. À Paris, il y a des embouteillages. Non, tu comprends, être en retard, ça fait riche. Et quand on est célèbre comme lui, n'en parlons pas. C'est une tradition. C'est quasiment obligatoire. On tarde, et on apparaît enfin aux yeux du peuple. Ah, évidemment, hein, c'est le monsieur qui passe à la télévision. Belle affaire. Quel con qui passe pas à la télévision.
Tu sèches dès le départ ?
Je sèche dès le départ.
Très curieux.
Pourtant, Georges, ça me dit quelque chose.
Alors là, c'est Jean-Pierre Bacri et l'autre acteur, c'est Sam...
Cuisine et dépendance.
Oui.
Voilà, oui, c'est ça.
Sam Carman, pour un film de Philippe Mille sorti en 93, qui est l'adaptation de la pièce de théâtre donc du même titre d'Agnès Jaoui et de Jean-Pierre Bacri. Jacques et Martine, un couple de bourgeois ordinaires qui invite à dîner 2 amis perdus de vue depuis 10 ans, un écrivain et journaliste à succès. Et puis sa femme, entièrement dévouée à sa carrière, hein, qui se pointe avec 2 heures de retard. Et parmi les invités, il y a donc ce Georges, interprété par Jean-Pierre Bacri, un être dur et râleur, un personnage qui reviendra effectivement souvent dans ses rôles. 528 000 entrées en France. 2e extrait.
Bon, bien sûr, on la connaît, elle. Mais il faut connaître plus pour sentir le cul. Elle, c'est la boulangère.
Elle vend le pain. Le pain.
Bon, oublie. Oublie le pain. C'est pas important, ça. On ne sent pas le cul.
Bon, on ne sent pas le cul des filles.
Bref.
Sauf si c'est elle qui demande. Si c'est elle qui demande, tu vois avec elle. Hein? Ouais, mais bouiche, bouiche. Il m'a déjà dit bouiche et puis...
Tu disais qu'il avait souvent les mêmes rôles, mais là, en l'occurrence, c'est un peu différent.
Didier, donc, d'Alain Chabat.
Oui. Sorti en 97, Jean-Pierre, agent de football, a accepté de garder Didier, le chien d'Annabelle et une amie journaliste. Mais au cours de la nuit, eh bien, le Labrador prend une apparence humaine, mais reste psychologiquement eh bien, toujours un chien. C'est le César du meilleur premier film en 98 et ça a fait 2,9 millions d'entrées. Autant dire que quasiment tout le monde l'a vu, sauf moi. Je ne l'ai toujours pas vu.
Ah bon?
Ah oui, mais
non, c'est très drôle.
Je me le garde, je me le garde. Troisième extrait.
Veux.
The.
Ve.
The.
Ve.
The.
The. Ah. The. The. The.
Yes, very good.
The. The.
Yes.
The.
Okay.
The.
Okay.
The. The.
Okay.
The.
Okay, that's okay. The weather is nice.
The weather is nice. Vous n'avez pas faim, ou?
No, I'm not hungry.
What?
I am not hungry.
Me, I'm angry.
On parle de très mal.
What?
No, nothing.
Nothing. Nothing.
Nothing.
Nothing. No, nothing.
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 Alors, c'est un film... Alors, autant le dire, c'est un film réalisé par Agnès Jaoui. Le scénario, c'est Bakri, avec elle.
Je pensais que c'était une affaire de goût. Mais...
Alors, il y a le goût dedans, mais c'est...
C'est le goût des autres, oui. Pardon, oui, pas une affaire de goût, le goût des autres.
Oui, oui. J'imaginais que tu as fait la confusion. C'est un film sorti en 2000, l'histoire de Castella, interprété par Jean-Pierre Bakri, un entrepreneur mélancolique qui tombe amoureux de Clara, une actrice qui lui donne des cours d'anglais. Donc ça, c'était un des cours d'anglais. Il s'agit d'un film choral. Donc, on s'attache également à des personnages connexes, comme la femme de Castella, le chauffeur, son garde du corps et une amie de Clara, donc la comédienne. Le thème du mépris des clans face à ceux qui ne leur ressemblent pas, c'est ce qui est abordé dans ce film qui a fait 3,8 millions d'entrées en France et puis 4 Césars, dont meilleur film et meilleur scénario, et puis meilleur acteur dans un second rôle pour Gérard Lanvin et meilleure actrice dans un second rôle pour Anne Alvaro. Quatrième extrait de ce blind test.
T'as mis ton petit gilet du vendredi ? Et Arlette, elle est là-haut ?
Non, elle n'est pas là, Arlette, figure-toi. Qu'est-ce qu'elle fout encore, ça ? Mais 8 heures moins le quart, ça continue. Et madame n'est toujours pas rentrée. Tout ça pourquoi ? Pour bavasser avec sa copine, comme d'habitude.
C'est beau l'amour quand même, hein ?
Quoi, c'est beau l'amour.
Bah la façon dont tu parles de ta femme, c'est beau. On sent toute la tendresse, toute la compréhension.
Et qu'est-ce que tu connais, toi? Tu vis avec quelqu'un? Quand tu vivras avec quelqu'un, depuis 15 ans, tu viendras me voir, puis on en reparlera de la compréhension. Tu vas trop au cinéma, toi.
Alors ça a été trouvé, Manu.
Et c'est un air de famille.
Oui, réalisé par Cédric Lapiche en 96, d'après la pièce de théâtre du même titre, hein, d'Agnès Jaoui et de Jean-Pierre Bakri. Alors, on peut dire que Cédric Lapiche a aussi participé au scénario. Ça lui a permis de prendre un petit César au passage. C'est la famille Ménard qui se réunit au café au Père Tranquille, dont Henri est le patron. Et ce devait être la fête, mais la femme d'Henri a quitté le domicile conjugal. César du meilleur second rôle masculin pour Jean-Pierre Darroussin, meilleur second rôle pour Catherine Froh, meilleur scénario original, donc pour le trio. 2,4 millions d'entrées en France. Dernier extrait de la première partie de ce blind test.
En fait, on trouve que vous n'êtes pas très inventif.
Ouais, voilà, c'est ça. Vous n'êtes pas très inventif.
Inventif ? Ah d'accord. Inventif. Alors, voilà. Alors là, pour le coup, il me vient quelque chose d'assez inventif. Oui, on supprime l'entrée, je vous suis là-dessus.
Très bien.
Là, je suis complètement, c'est vrai, c'est une bonne idée. Mais on fait aussi l'impasse sur le plat principal. Et alors, où c'est inventif, vous demandez aux gens d'apporter des Tupperware, avec des carottes râpées, des œufs durs. Certains préparent des salades à la maison. Vous demandez, par exemple, à quelqu'un d'apporter de la bière et puis à un autre d'apporter de la limonade, ce qui permet de faire des panachés.
Bon, écoutez, oui. Je crois...
Ça a été trouvé.
C'est le sens de la fête.
Oui, d'Éric Toledano et Olivier Nakache, donc un film plutôt récent, sorti en 2017. Max est un organisateur de mariage expérimenté qui doit gérer le mariage de Pierre et Elena dans un château de prestige. Et donc, il doit faire appel à une équipe de serveurs, trouver des cuisiniers, un photographe, un orchestre, un animateur tout en gérant les demandes et problèmes de chacun, mais aussi les siens. 3 millions d'entrées en France, 10 nominations au César, mais rien, rien du tout. Ainsi s'achève la première partie de ce blind test consacré à Jean-Pierre Bacri. On retrouve la deuxième partie un peu plus tard. Et on va maintenant écouter Marine qui a décidé de nous parler d'un film qui pourrait être sélectionné aux Oscars. C'est One Night in Miami de la comédienne Regina King qui nous immerge dans une nuit d'échanges fantasmés entre quatre emblèmes afro-américains.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Et croyez-moi, ce ne sera pas long.
Nous sommes à Miami le 25 février 1964 et Cassius Clay, qui n'est pas encore devenu Mohamed Ali, fête son nouveau titre de champion du monde avec ses amis. Malcolm X, membre actif et radical de la Nation d'Islam, fervent militant de la cause des personnes noires, le chanteur Sam Cooke, qui malgré son succès dans le monde de la soul, se heurte toujours au racisme, et la star du football américain Jim Brown, qui est sur le point de démarrer une nouvelle carrière d'acteur. Si cette soirée entre ces quatre personnages emblématiques a bien eu lieu, les conversations à bâtons rompus, les débats, les altercations et les réflexions sur l'évolution du monde qui la rythme ont toutes été imaginées par Kem Power dans la pièce de théâtre One Night in Miami, adaptée ici dans ce qui pourrait bien être un sérieux candidat aux prochains Oscars.
Listen, listen. Brothers and sisters, listen, listen, listen.
Le film s'ouvre sur la célèbre victoire de Cassius Clay à Wembley lors d'un match mythique qu'il opposa à Sonny Liston. Cette scène de combat de boxe fluide, crue, percutante, c'est le mot, ouvre le film de façon magistrale et fera mentir ceux qui pensent encore qu'il existe une manière de réaliser propre aux femmes, plus sensible, plus douce, plus en intériorité. L'alternance des plans au plus près des deux boxeurs et des plans aériens qui saisissent toute l'effervescence du ring nous plonge au plus près de ce match historique dès les premières minutes du film, car One Night in Miami est bien réalisé par une femme, Regina King, artiste multiple à la carrière longue de 30 ans, qui débute comme actrice en 91 dans le mythique Boys in the Hood. Avant de passer derrière la caméra et de réaliser de nombreux épisodes, entre autres de diverses séries, elle s'illustrera notamment dans Jerry Maguire, Ennemi d'État, Si Beale Street m'était compté, et dans les séries 24 heures chrono ou récemment The Watchmen. On retrouve dans son sillage un nombre de récompenses et de nominations absolument hallucinants. Et avec son premier long métrage, One Night in Miami, donc, elle devient également la première femme noire à être sélectionnée au Festival de Venise. Le film est d'ailleurs littéralement une bande démo de Regina King qui montre qu'elle maîtrise admirablement la lumière, qu'elle filme aussi bien les dialogues entre hommes que les scènes de sport ou même de prière, avec une très belle séquence au cours de laquelle Malcolm X et Cassius Clay prient ensemble. C'est pour ma part, il me semble, la première fois d'ailleurs que je vois dans un film américain des musulmans prier sans que cette scène ne soit filmée de manière anxiogène. Pas évident de passer quasiment 2 heures en huis clos, puisque l'on sortira à peine de la chambre d'hôtel où sont réunis les quatre amis, mais Regina King s'en sort haut la main, réussissant à composer des plans toujours inventifs entre quatre murs. On pourrait reprocher au film d'être trop bavard, mais quand c'est Tarantino qui filme des hommes discuter pendant 2 heures dans la même pièce, ça ne dérange personne. Alors certes, le trait est un peu forcé, hein, les personnages, quoique très bien interprétés, semblent un peu stéréotypés, au début surtout, avec un Cassius Clay immature et mégalomane, un Jim Brown rebelle et frondeur, mais la réalisatrice réussit à instaurer un bel équilibre entre débats politiques et récits personnels sur fond de ségrégation raciale. Malcolm X reproche à Sam Cooke de ne pas écrire de chansons engagées, à Cassius Clay de continuer à boire de l'alcool et à Jim Brown de devenir acteur pour un Hollywood encore et toujours tenu par des blancs qui le feront mourir en premier dans leur western. Si ces dialogues sont inventés de toutes pièces, les protagonistes connaîtront réellement un changement radical dans leur vie ou leur carrière. Peu de temps après cette soirée, Cassius Clay se convertira définitivement à l'islam, Malcolm X quittera la Nation d'Islam et sera assassiné, et Sam Cooke écrira le célèbre « A Change is Gonna Come », chanson emblématique sur les inégalités raciales.
One Night in Miami est disponible sur la plateforme Amazon. Prime. On revient au blind test sur la filmographie de Jean-Pierre Bacri.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi, c'est une blague ou quoi ?
Ce sera peut-être un peu moins facile pour cette deuxième partie, quoique on va commencer normalement avec quelque chose que vous devriez trouver, chers auditeurs, et toi y compris, Manu. Premier extrait.
J'ai eu envie de la tuer, Morgane, ce soir. Elle est pénible, non ?
Johanna aussi, hein, à sa façon, mais... C'est des enfants, quoi. Les enfants, c'est pénible. Hein. Ils te sollicitent tout le temps, t'as pas une seconde à toi, c'est abrutissant. Tu répètes 1000 fois la même chose, c'est du dressage, quoi, c'est chiant, on peut pas dire le contraire. Enfin, je veux dire quand on regarde les choses à plat.
Ouais, à plat, c'est comme ça.
Alors celui-ci, tu l'as peut-être pas vu.
Je ne pense pas l'avoir vu, c'est un film d'Agnès Jaoui ou...
Oui, film de 2013. C'est une voyante qui annonce...
Ouais, mais je vois ce que c'est, mais je ne l'ai pas vu du tout, le film.
Alors, c'est Au bout du compte.
Au bout du compte, ouais.
Voilà. Et ça a été coécrit avec Jean-Pierre Bacri, encore une fois. C'est une voyante qui annonce à Pierre, donc Jean-Pierre Bacri, la date de sa mort. Et cet homme rationnel commence à y croire. Sa fille, elle, croit au prince charmant jusqu'à ce que plusieurs arrivent. Et puis d'autres personnages voient les changements arriver dans leur vie. C'est quasiment 1 million d'entrées en France. Ce deuxième extrait du blind test.
Pourquoi tu me paies un loyer ?
Mais t'occupes, il y a des quotas de logement pour la mairie. En plus, je vais mettre un tramway là-bas, tu seras à 6 stations, c'est rien.
J'ai pas envie de quitter ma famille.
Et qu'est-ce qu'elle fait pour toi, ta famille ? Tu seras indépendante, tu peux te balader à poil toute la journée, on peut se voir quand on veut. T'as 25 ans ? À 25 ans, il y a 63% des jeunes qui ont quitté leur famille, 24% qui sont mariés ou en concubinage, et 13% seulement qui...
Non, je t'assure, non.
Mais pourquoi toujours dire non ?
C'est un film de 2006, réalisé par une femme. C'est avec Vincent Lindon, Benoît Magimel, Benoît Poulvorde.
C'est le film de Nicole Garcia, en fait ?
Oui, c'est Selon Charlie.
Selon Charlie, oui,
voilà.
Oui.
Une ville au bord de l'Atlantique, hors saison, 3 jours, 7 personnages, 7 vies en mouvement, en quête d'elle-même, qui se croisent, se ratent, se frôlent, se percutent et qui, en se quittant, ne seront plus jamais les mêmes. 492 000 entrées en France. C'est le 8e extrait de cet immense blind test.
Vous avez eu 3 sourires.
Pardon ?
Le sourire poli pour quelqu'un qu'on connaît à peine, le sourire sec, je vous dois de fric, mais je suis sans un, et le sourire du remords, le dernier, le plus sympa.
Ah, vous avez lu mon article sur...
Oui, parce que si les yeux sont levés vers le ciel, les messages se dessinent sur les lèvres, c'est ça ?
Ah, c'est tout à fait ça. Bon, c'est un article qui date d'il y a au moins une fois.
Dites-moi ce qui vous chiffonne, ma grand-mère, parce que j'ai une solution pour tout.
C'est simple. Quelqu'un va peut-être avoir un problème, parce que j'ai pas parlé à quelqu'un de quelque chose dont j'aurais dû lui parler. Et maintenant, je dois le dire à ce quelqu'un, et je ne sais pas comment. Alors, est-ce que je dois le dire ?
Quelqu'un, j'ai rien compris.
Et voilà.
Mais là aussi, je pense pas, je suis pas sûr de l'avoir vu.
La comédienne, est-ce que tu as...
C'est pas Émilie Desquennes ?
Non,
c'est pas... Non, j'ai pas reconnu, en fait.
C'est la voix d'Isabelle Carré.
C'est Isabelle Carré ?
Oui. Il y a aussi
alors, ça peut être les sentiments ?
Non. Dans ce film, il y a aussi Christine Scott-Thomas qui joue le rôle de la femme de Jean-Pierre Bacri, qui interprète Damien. Et qui, pour éviter une certaine Zurika d'être expulsée, doit demander l'aide à son père conseiller d'État, interprété par Claude Rich, fabuleux, avec lequel il entretient une relation plus que distante. C'est Chercher Hortense de Pascal Bonitzer.
Je n'ai pas vu.
Film de 2012, plutôt réussi. 449 000 entrées en France. 9e extrait.
Qu'est-ce qui se passe encore ?
Rien, il est pénible.
Pas comme ton employé ?
Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Tu vas me faire un cirque parce que je dis de dormir ici ? Je vais pas le laisser reprendre la route avec le temps qu'il fait. S'il y a un accident, c'est sur moi que ça va retomber.
Tu vois très bien de quoi je veux parler. Tu le traites mieux que ton fils.
Oh. C'est juste un pauvre gosse qui a pas eu beaucoup de chance. Si je peux lui rendre la vie un peu meilleure à l'occasion, je le fais, voilà, c'est tout.
C'est un film de 2011 de Raphaël Jacoulot.
J'ai pas vu, ça c'est sûr.
Qui s'intitule Avant l'aube. Frédéric, un jeune en réinsertion, travaille dans un grand hôtel à la montagne. Un client disparaît et il suspecte la famille qu'il emploie, mais choisit de protéger son patron, cet homme qui le fascine. Et bientôt, il est mis en danger. 129 000 entrées en France. C'est le film qui a le moins bien marché de tout ce blind test. On retrouve un peu le chemin du succès avec ce dernier extrait.
Déjà, les fiançailles, j'ai du mal, mais alors en même temps qu'une commémoration funèbre...
Tu te couches pas ?
Non. J'ai les choses à ranger à la cave.
À cette heure-ci ?
Ouais. Je vais déblayer un peu. Je vais déménager mon bureau, je vais installer au sous-sol.
Qu'est-ce qui te prend?
Je sais pas, j'ai envie de changer.
C'est tout noir, on n'y voit rien, pourquoi tu vas t'enterrer là-dedans?
C'est Kennedy et moi de Sam Karman.
Oui, sorti en 1999 et on entendait Nicole Garcia isolée dans son bureau. Simon Polaris passe le temps à milieu du livre qu'il doit écrire, apathique et désabusé. Eh bien, il se rend chez son psychanalyste pour lui faire part de son désir d'en finir. Mais dans la poche de pantalon du psychanalyste persiste un dernier mystère, une montre qu'aurait portée John Kennedy le jour de son assassinat. 584 000 entrées en France. Et c'est ainsi que s'achève la deuxième partie de ce blind test consacré à Jean-Pierre Bacri. Partez à la rencontre de Keno Don Rosa, l'auteur mondialement reconnu du roman graphique La jeunesse de Picsou dans The Scrooge Mystery ou Le mystère Picsou de Morgan Jiquel.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations?
Cinérama.
On va regarder ça.
On a beau être acclamé par toute une communauté, hein, être salué par ses pairs et faire les beaux jours d'une très grosse compagnie, il se peut que votre nom ne soit pas forcément connu du grand public. C'est le cas de Keno Don Rosa. Donc, dans le monde de la bande dessinée, Keno Don Rosa, ou Don Rosa tout court pour les habitués, est plus qu'une légende, c'est un dieu. À la fin des années 80, il va révolutionner le monde de la bande dessinée chez Disney et créer un récit devenu depuis légendaire, The Life and Times of Scrooge McDuck ou La jeunesse de Picsou chez nous. Vous allez vous dire qu'une telle compagnie, hein, est qu'un personnage aussi emblématique de la firme aux grandes oreilles aurait eu légitimement droit à un documentaire officiel lancé en grande pompe. Eh bien, à l'image de son auteur, l'histoire est bien plus riche et complexe que ça. Et pour un auteur exceptionnel, des moyens exceptionnels vont être déployés. Exit donc des documentaristes chevronnés comme Laurent Bouzereau, c'est l'inconnu Morgan Jiquel qui va se charger de la tâche. Jiquel a, comme des milliers d'enfants, grandi en lisant les aventures de Picsou et a vu sa vie changer lorsqu'il est tombé sur l'œuvre phénoménale de Don Rosa, La jeunesse de Picsou. Il faut dire que ce récit n'est pas une histoire habituelle. D'ordinaire, il est plus commun d'avoir des narrations courtes qui dépeignent la vie de Picsou et de sa famille, Donald, Daisy et les autres, dans des structures qui se suffisent à elles-mêmes et qui n'appellent pas à une continuité très rigoureuse. Or, le coup de génie de Don Rosa, dessinateur autodidacte qui a réussi à se faire une place presque par hasard dans l'écrasante industrie Disney, c'est d'être remonté à la source des personnages inventés par le génial Karl Barks dans les années 30 et de tisser des liens entre toutes les informations collectées de planche en planche. Non seulement il est arrivé à retracer le parcours de Picsou, mais il a su intelligemment colmater les zones d'ombre pour faire une biographie exemplaire qui va dépasser les attentes. On suit donc Balthazar Picsou de son enfance à sa rencontre avec Donald, Riri, Fifi et Loulou, une période qui va de 1877 à 1947. Le tout est découpé en 12 chapitres auxquels s'ajouteront des épisodes bis et même terres qui vont prolonger l'expérience immersive. Ces 12 étapes, que l'on pourrait rapprocher des 12 étapes du héros de Joseph Campbell dans son élan de poésie, vont permettre aux personnages emblématiques et aux lecteurs de traverser 70 années à travers le monde entier, de Glasgow aux États-Unis, en passant par l'Afrique du Sud ou encore l'Australie, pour finir par établir son gigantesque coffre-fort à Donaldville, forcément. À la fois récit initiatique palpitant, western spectaculaire, comédie romantique et d'aventure à la Jean-Paul Rapneau ou encore méditation émouvante sur le sens de la vie et de l'intégrité, La jeunesse de Picsou donne un grand coup de fouet aux préjugés que l'on pourrait avoir des propositions d'une telle firme et finit d'asseoir Don Rosa au fil des pages qui tournent comme un auteur passionnant à part entière. Mais là où il va défier toute attente et imposer durablement sa patte, c'est qu'en plus d'un coup de feutre excellent qui sème des détails croustillants dans chacune de ses cases, Don Rosa a su donner à ce récit une ampleur mythologique et s'est pour cela aidé de tous les artifices possibles du 9e art, mais aussi ceux du 7e. La jeunesse de Picsou doit beaucoup au cinéma auquel il est régulièrement fait clin d'œil au détour d'une idée de cadrage ou de péripétie. Les plus attentifs y verront des citations du cinéma d'aventure de John Ford ou de John Huston comme le trésor de la Sierra Madre, tandis que d'autres remarqueront des emprunts à Orson Welles, dont son fameux Rosebud transformé en Goldie, dans une reprise savoureuse de l'introduction célèbre de Citizen Kane. C'est donc une œuvre splendide, épique et savante qui peut se lire à tout âge et s'apprécier même si on n'est pas un familier ou amateur de l'écurie Disney. Cette œuvre sera récompensée d'un prestigieux Will Eisner Award en 1995, l'équivalent des Oscars pour la bande dessinée. Ce Scrooge Mystery, marchant sur les traces esthétiques du mystère Picasso d'Henri-Georges Clouzot, on peut voir même la référence jusque dans le titre, se charge de faire la lumière sur la vie de son auteur qui aura connu bien des péripéties. De ses origines à son divorce douloureux avec Disney et le monde de la bande dessinée, tout son parcours est évoqué avec une tendresse évidente pour un artiste profondément attachant et qui n'a jamais oublié le fan qu'il était à la base. Et on ne peut que saluer ce film totalement indépendant, hein, financé via un crowdfunding qui a permis à Morgan Jickel de voyager un peu partout en Europe et jusqu'aux USA pour filmer son idole. En prime, vous aurez quelques mots d'illustres intervenants comme Steven Spielberg ou Tuomas Holopainen, leader du groupe Nightwish et qui avait composé une BO inspirée de la jeunesse de Picsou en 2014 en projet solo. Si même ces fans de renom ne vous donnent pas envie de franchir le pas, c'est qu'on ne peut définitivement plus rien pour vous.
The Scrooge Mystery ou le Mystère Picsou est disponible sur Apple TV et Vimeo On Demand.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Mais pour quelle raison ?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon ?
Qu'est-ce que vous racontez ?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est difficile de répondre, comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie !
J'espère que cette émission vous aura donné envie de vous replonger dans la filmographie de Jean-Pierre Bacri. On se retrouve la semaine prochaine à nouveau pour un blind test et puis de nombreuses chroniques.